dans l'Open Mic. Next up on the mic. Open Mic, Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic, Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Salut les amis, faites comment pour vous adapter, vous autres, plus vous vieillissez? Est-ce que c'est dur de vous adapter ou c'est plus facile parce que vous êtes rendu avec une certaine expérience de vie? C'est des questions que je me pose aujourd'hui.
Hey boy!
Salut! Audrey Pinchot n'est pas là. Elodie qui est là pour la remplacer pendant 2-3 semaines. Audrey qui est en vacances. Pascal CV qui est en vacances aussi. Là, c'est-tu moi qui ai rendu trop bonhomme ou trop protecteur? Mais là, Pascal est en Italie.
Ouais.
Et là, elle a pris des photos de son arrivée en Italie.
Mm-hmm.
Et sur la rue, il n'y a personne sauf un homme avec un journal très bien plié. Là.
Je l'ai vu, la photo.
Oui. T'as-tu vu le journal?
J'ai pas remarqué le journal.
Le journal est très plié, là.
Un petit journal...
Oui, un journal comme on avait, comme le Journal de Québec, mais mettons, mais plié d'une certaine façon, comme pour prendre une photo. Tu sais, il y avait de l'air vraiment louche. Puis là, je m'inquiète pour Pascal. Je cherche Pascal partout.
Qu'est-ce qui va arriver avec le journal, tu penses?
Je ne sais pas. Mais pourtant, Pascal, elle m'a dit, ben le gars, il a genre 30 ans, il est beau bonhomme, tout ça, mais ça correspond pas avec le monsieur qu'elle a pris en photo.
Mais non, c'était pas un bonhomme, genre, ça. Excusez l'expression,
un
là,
monsieur?
Mais... un monsieur d'un certain âge!
Ben, c'est ça.
Attends un peu.
Il y a peut-être un gros bateau, le monsieur. C'est peut-être pour ça que Pascal me mentit.
Ah, les bateaux! On aime ça, les bateaux!
Mais c'est ça, son journal est plié d'une drôle de façon. Enfin, j'espère juste que c'est pas fait enlever. Là. J'ai vu des films Taken avec Liam Neeson.
J'ai jamais vu ça.
T'as pas vu ça?
Non.
Sa fille s'en va dans un autre pays, puis elle se fait kidnapper. Mais pendant qu'elle se fait kidnapper, elle appelle son père. Puis là, son père, il dit, va te cacher en dessous du lit. Fais ci, fais ça. Puis là, il dit, dans quelques secondes, il va rentrer dans la chambre, il va t'enlever. Laisse le cellulaire ouvert. Puis elle laisse le cellulaire ouvert. Puis là, il dit, est-ce que t'es encore là, ma fille? Est-ce que t'es encore là, ma fille? Puis là, c'est le kidnappeur qui prend le téléphone. Puis là, Liam Neeson, il dit, je sais pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui je suis. Si vous voulez de l'argent, j'en ai pas, mais j'ai quelque chose, le travail que j'ai fait va me permettre de vous retrouver. Et là, le gars, il dit, bonne chance. Mais là, tout ça, c'est enregistré. Puis Liam Neeson écoute le bonne chance comme 150 000 fois. Et là, il part à la recherche de sa fille. Fait que peut-être qu'on va partir toute la gang. M'emmener toute la gang de Boulevard qui est avec moi au gala de lutte, là. Puis on va aller chercher Pascal pas qu'elle se fasse enlever par des méchants. Les films en stall aussi, t'as déjà vu ça?
Vous ne savez pas qui je suis.
Exact.
Mais j'ai une gang de crinqués de radio et de lutte avec moi. On s'en vient.
Exact.
Mais comme, non, hablo... OK, non, c'est en italien. Je parle pas l'italien.
Wow.
Non, hablo Frances.
Oui, ben c'est ça. Fait que là, le monsieur sur la photo de Pascal, c'est sur son Instagram en passant. Je le trouve très louche. Je l'ai mis sur ma page Facebook pour commencer à ramasser mon dossier. Là.
Cher Pascal, on est avec toi. On veut pas qu'il arrive quoi que ce soit.
Jessie qui embarque avec moi. Merci, Jessie.
Ben OK, oui, ben j'ai la photo. Écoute, le monsieur a pas 30 ans, là.
Non, il est un petit peu plus vieux. Elle m'a dit qu'il était très beau bonhomme, bien habillé, tout ça. Puis là, cet homme-là, il est quand même très beau bonhomme, mais on va dire qu'il a un âge mûr. Puis regarde le journal.
Ah oui,
il y a personne sur la Terre qui plie son journal de même.
C'est le journal La Nouvelle. La Nouvelle.
Ouais.
OK, c'est ça.
Fait que c'est peut-être lui qui l'a enlevé, finalement.
Fait que là, je vais faire un screenshot parce que c'est une story. Fait que si jamais la story disparaît et que Pascal disparaît aussi, on va pouvoir faire un zoom pour voir la date
exact.
Du journal, l'endroit où est-ce qu'on est, tout ça. Là.
Il y a de l'air louche, le monsieur.
C'est tellement beau, l'Italie. As-tu visité l'Italie?
Non, pas encore.
C'est magnifique.
Ouais.
Je pense qu'elle va avoir un beau voyage, mais on n'a pas la même définition d'un jeune homme de 30 ans.
Je me réserve ces gros voyages d'exploration-là que je vais faire pendant un mois, deux mois, trois mois, peut-être un jour. Je me le réserve pour plus tard.
Mm-hmm.
J'aime mieux faire des voyages plus en Amérique ou peut-être mais t'sais, France. Là, j'aime bien France. Mais t'sais, la Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qui m'interpelle.
Wow.
Surtout depuis que je me retape la série Lost. Là.
Ah oui, en plus, hein?
Ouais, tu sais, de grands espaces vides où il n'y a pas un chat. C'est le genre de choses qui m'intéressent beaucoup. L'Australie, j'aimerais y aller, mais je me réserve ça pour plus tard.
Ouais. Ben c'est des voyages qui coûtent cher au niveau du billet d'avion puis qui prennent beaucoup de temps pour le transport aussi.
Oui.
Fait que ça vaut pas la peine, en effet, d'y aller si t'as juste une semaine, deux semaines de libre. Mettons, quand tu parles de la Nouvelle-Zélande. L'Europe, ça se fait un petit peu mieux quand même. Mais c'est vrai que l'Italie pourrait avoir été un mois personnellement. Tu peux faire 3-4 mois.
Oui, c'est ça. C'est plus long.
Puis en profiter.
Puis là, avec des jeunes enfants, c'est un petit peu plus difficile pour moi de partir pendant des semaines et des semaines. Quoi qu'il y en a qui le font, puis c'est correct, c'est de vos affaires. Moi, je suis pas capable de faire ça.
Ouais, Je t'entendais hier, super bon épisode aussi dans Marceau le soir avec Mariana Mazza.
Oui.
J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé votre conversation. À un moment donné, ça starte, puis là, vous êtes comme plus arrêtable. Tu sais, ça prend un peu de temps au début, tu vois que tu es dans ses affaires.
Elle est longue à dégeler, elle. Ça fait une couple de fois que je l'ai en entrevue. D'ailleurs, la première fois que je l'ai eu en entrevue, c'était avec toi.
Oui.
Puis j'avais ressenti ça, qu'elle a comme une certaine méfiance envers les médias. Elle est un peu tannée de se faire tout le temps poser les mêmes questions.
C'est ça.
Puis elle me l'a dit d'ailleurs, tu sais, elle fait pas beaucoup de podcasts parce que c'est tout le temps les mêmes questions.
Tu sais, quand t'as commencé
complètement d'autres choses.
Tu sais, quand t'as commencé en te disant « Oh, j'aime pas bien ça, les podcasts, pour ça, j'en fais pas beaucoup, puis t'es en train de faire un podcast avec, c'est comme « Hey boy, il va falloir que je travaille fort. » Fait que quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Pauvre Yann. » Puis là, ben j'écoutais, je sentais ça avancer, puis à un moment donné, là, clic,
je t'allais chercher.
Ça a décroché. Vous êtes mis à vraiment juste avoir une conversation, les deux. T'as été capable d'aller chercher les sujets. C'est ça, les sujets qui l'intéressent et tout, puis ça fait un très bon épisode. Fait que vous irez écouter ça, les auditeurs, Marceau le soir, le podcast avec Mariana Mazza, mais vous avez parlé de voyage. Puis ce que tu disais aussi, puis elle aussi, c'est que vous avez des vies chargées, vous travaillez beaucoup. Des fois, juste un bon voyage dans le sud, là, ça prend ça pour décrocher. T'as
moi,
pas
ça
besoin...
me prend une place où je suis pogné puis je peux pas me sauver.
C'est ça.
Ouais. Tu peux je peux me louer un chalet dans le bois. Faut pas qu'il y ait de ville proche. Puis là, je le sais que je suis pogné là pendant une semaine. C'est là que je vais décrocher. Même affaire pour le sud. On prend un resort 5 étoiles. On est là une semaine. Ben c'est 16 jours où ton environnement, ça va être ça, puis ça changera pas. Puis t'as pas de décision à prendre autre que quel restaurant qu'on va manger. On va-tu se coucher? On se lève-tu? On va-tu prendre un verre? T'sais?
Pas de décision
exact.
À prendre.
Mais Mariana Mazza, je la connaissais pas vraiment personnellement. Je la connais pas plus personnellement. Mais quand je l'ai eu en entrevue avec toi la première fois, j'y avais dit, je te l'avais dit après, je pense que moi, c'était pas mon genre d'humour, Mariana Mazza, mais je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je vais m'acheter un billet pour Mariana Mazza, puis je vais aller la voir. Puis je l'ai dit pendant le podcast, j'ai vraiment trippé sur son spectacle par sa franchise, par sa façon d'être. Des fois, l'image que tu peux te faire des gens par rapport à ce que tu entends à la radio ou encore ce que tu quand tu les vois à la télé n'est pas nécessairement très révélatrice de la personne elle-même. Mmh. Des fois, c'est la même personne, mais des fois, tu te dis « OK, je suis agréablement surpris ». Puis en spectacle, le premier 2-3 minutes, moi, elle me conquis. Là, écoute, je pissais à terre, j'étais là « voyons que je vais avoir un spectacle demain ». Puis elle dit « Ben c'est comme ça que ça part, le spectacle ».
Ah, le show commence fort. Là. C'est le spectacle Impoli dont tu parles. J'avais été le voir aussi. J'avais trippé sur ce show-là. Des billets que j'avais achetés, moi aussi. Mais tu sais, j'étais déjà conquise un peu d'avance. Puis Mariana Mazza, c'est ça. C'est quelqu'un que si tu la vois 7 minutes dans un gala juste pour rire, c'est facile de dire « Ah, c'est une personnalité vulgaire, grossière un peu. » Puis elle joue là-dessus, tu sais. Puis elle rit de ses attributs physiques, par exemple. Mais quand on l'entend dans un podcast comme tu le fais, on se rend compte que c'est une personnalité beaucoup plus complexe que ça et dans le bon sens, c'est ça que je veux dire. Puis j'ajoute à ça aussi que je pense que bien que vous ayez des vies et des personnalités complètement différentes, l'endroit où vous vous rejoignez à un moment donné, c'est que vous êtes deux personnes très authentiques et de valeur, puis vous dérogerez pas de ces valeurs-là, peu importe, tu sais, la vie publique, le ci, le ça. Fait que quand on vous embarque les deux sur ces sujets-là plus profonds, là, ça part.
Mais c'est une libération quand on devient comme ça. On devient pas... Tu sais, il y en a qui sont nés, qui naissent comme ça. Moi, je ne suis pas né comme ça. C'est à partir de 40 ans où je me suis dit, hey, je vais arrêter de vivre pour ce que les autres peuvent penser de moi, puis je vais être moi-même, puis... Tu sais, c'est une révélation, je sais pas. Mais en tout cas, moi...
Une illumination!
De cesser de vivre dans le regard des gens, là, ça m'a fait vraiment du bien. Puis quand je croise des gens comme ça... Tu sais, à un moment donné, si vous pognez l'émission qui est disponible en podcast... Je dis, j'ai trouvé ça cool que tu rencontres, parce que moi, quand j'ai fait ça au gala, j'ai trouvé ça cool de donner des poignées de main aux auditeurs qui étaient venus. Tu sais, il y avait dépensé entre 20 et 50 $ pour le gala de lutte. L'argent allait à Boucher Généreuse. Je trouvais ça cool que les gens fassent ça. Je me suis dit, j'aimerais ça leur remercier personnellement. Puis moi, ça m'a comme donné de l'énergie de rencontrer ces gens-là.
Ouais.
Puis là, au spectacle de Mariana Mazza, elle dit, à la fin, si ça vous tente de prendre des photos, je vais prendre des photos avec vous autres. Là, je dis, je trouve ça cool que tu fais ça. T'aimes-tu ça? Elle dit, non. Pas pantoute. Elle dit, on m'a demandé de le faire, fait que je le fais, mais elle dit, j'aime vraiment pas ça, rencontrer le monde.
J'adore ce genre de réponse-là. Même si c'est pas toujours évident à dealer pour un intervieweur, mais toi, à ce temps, t'es rendu habitué. Puis tu sais, c'est clairement pas ce qu'un agent de l'artiste dirait. Non, non, tu dis oui, faut pas que les gens se sentent mal d'aller te serrer la main. Elle a dit la vérité, puis j'adore ça. Puis toi, tu me dis que c'est la quarantaine qui t'a amené ça.
Ouais.
Pour moi, personnellement, cette authenticité-là, le fait d'être connecté avec qui je suis 100% sans me soucier de ce que les gens pensent, c'est toujours un work in progress, mais le fait de devenir parents, mm-hmm. le fait de devenir mère, ça a vraiment changé quelque chose pour moi là-dessus. Tu sais, les relations que tu gardes juste parce que il faut, entre guillemets, que tu les gardes, ouais. mais que ça te rend pas tant service, tasse ça de là. Le speech en onde aussi change des fois. De comme, je le dis pas pour séduire quelqu'un, c'est juste, garde, moi, là, à cette heure, c'est ça, puis c'est ça. Puis tranquillement, on s'en va ailleurs, puis ça aurait été le fait d'avoir un enfant.
Mais je pense que
j'ai moins de temps pour le niaisage.
C'est ça. Je pense que c'est parce qu'on vieillit. Mais tu sais, ça fait du bien aussi. Un auditeur qui m'a écrit, là, 2 semaines ou 3 semaines, qui disait, Yann, c'est cool que tu dises des fois, qu'une fois de temps en temps, tes enfants, ils te gossent.
Oui.
Parce qu'il dit, la plupart des parents embellissent la vie avec leurs enfants. Moi, ça arrive que mes gars se tapent l'un sur l'autre, puis j'ai averti 10 fois. Puis à un moment donné, je suis plus capable.
Plus
de patience. Faut que je sorte de la maison, que je m'assoie sur le perron, puis que je me parle en me disant, peux-tu croire, ça m'a pris 30 secondes à faire ces enfants-là, puis là, je vais être pogné avec les autres jusqu'à la fin de mes jours.
30 secondes! C'est tellement injuste, la vie! Mais on les tricote pendant 9 mois, nous autres.
Mais elle m'a jamais dit que c'était ses plus beaux 30 secondes de toute la vie, mais au moins, elle a eu des enfants. Fait que c'est pas super. Mais lui, il me disait que ça lui faisait du bien d'entendre ça parce qu'il se retrouvait en moi.
Ouais.
Ben, pas en moi, mais il se retrouvait dans ce que je disais.
Il se reconnaissait.
Il dit ça, on n'entend plus ça à la radio, là, ou à télé. Des gens qui disent, hey, parfois, mes enfants me rend à bout, alors que c'est le quotidien de tous les parents.
Oui, puis cette culpabilité-là, faut s'en défaire. T'sais, c'est tout à fait normal, des fois, d'être à bout, d'être overstimulé, de revenir d'une journée de travail, puis juste dans le char là, de la garderie ou du service de garde à l'école jusqu'à la maison, sur la ride de 12 minutes, t'as entendu 240 fois « Papa, 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 papa! » Viens pas me faire à croire que ça a été le plus beau moment de ma vie. Ben non! Ça t'a tapé ses nerfs.
Ouais, en fait,
c'est normal, mais tu l'aimes encore, tu l'échangerais pour rien au monde, tu te pitcherais devant une vanne pour ton enfant. Mais l'arrête de char a été longue. Papa, papa, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Ton enfant qui répète tout le temps après. Il y en a des affaires qui gossent. Puis sur les médias sociaux, t'as vraiment les deux. T'as autant la mère parfaite qui montre juste le côté parfait, mais t'as aussi des comptes qui gagnent leur personnalité, leur popularité, excuse-moi, en montrant justement la vraie vie avec des enfants. La maison à l'envers, les enfants qui tapent ses nerfs, les frères, les sœurs qui se tapent ses nerfs, les cheveux gras le matin parce que t'as pas eu le temps de te laver les cheveux la veille parce que ton enfant est en train de se mettre les mains sur le poêle pendant que tu prenais ta douche, puis il a fallu que tu sortes.
C'est comme ça que je vous reconnais, vous mettez des calottes.
Oui. Ou des tuques. Les gars qui trouvent ça cute, une fille avec une tuque, là. Enlevez la peau. Ça pue en dessous.
Mais c'est ça, c'est le fun de jaser avec vous autres. Mais dans son cas, elle voulait rien savoir. Elle voulait juste se retrouver chez eux avec ses deux chiens. Salut Marceau, mes deux ados se pognent tout le temps et ça me gosse. Je suis d'accord avec toi. Des fois, de m'isoler, ça fait du bien. Sinon, ça monte en colère. Puis, tu sais, le plus beau mot que tu peux entendre de tes enfants, c'est papa ou maman. Hein?
Ah, tellement.
Mais parfois, je me surprends à me dire, asti, vas-tu me lâcher? Papa, 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 papa.
Ces temps-ci, ma fille apprend à dire ses besoins. T'sais, elle commence à parler.
Ouais.
Fait que là, on soupe, puis ça va me pointer de quoi? Banane. Ça, c'est une banane.
Banane.
Ça veut une banane. Puis là, je suis comme, c'est donc bien le fun quand elle commence à identifier ses besoins. Et là, tout le monde me répond, à ta peu, elle va comprendre comment dire non bientôt.
Ouais,
mais là... Ça, ça a l'air que c'est toute une passe. On salue les parents, d'ailleurs.
Puis là, tu vas switcher tes demandes à l'envers.
OK.
Fait que là, tu vas dire, habille-toi pour la garderie. Puis là, elle va dire non. Puis là, tu vas sortir. 2 minutes plus tard, elle va l'avoir oublié. Puis là, tu lui dis, ne t'habille pas pour la garderie, sinon maman va être fâchée.
Aujourd'hui, on reste en pyjama. C'est très important.
Oui, aujourd'hui, c'est le pyjama. On ne s'habille pas pour la garderie. Puis là, elle va s'habiller pour la garderie.
Ah, c'est ça le truc. Bon, ben, tu vois, je sais déjà que je vais avoir un bel avenir avec ma fille grâce à tes conseils.
Je te le souhaite.
Un père d'expérience.
10h14, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Vous êtes dans l'open mic. Je vous posais une question d'entrée de jeu. C'est quoi la question que j'ai posée?
Ah oui, comment on s'adapte?
Comment vous
t'as parlé d'adaptation. Pourquoi? Hein?
quand il y a des bad luck qui vous arrivent, on dirait que moi, c'est jamais... je peux avoir pendant 3 semaines pas de bad luck, puis pendant 1 semaine qu'il y a des bad luck. Puis là, c'est sûr qu'on n'a pas tous le même travail, mais moi, ça peut être des invités qui cancellent.
Ouais.
Mettons 10 invités par semaine, alors que ça n'arrive pas. Là, il y en a 10 qui me cancellent dans 1 semaine. Après ça, ça peut être un invité qui dit « Hey, je peux pas être à ton émission, mais je pourrais pré-enregistrer ce matin à 5h43. »
Et boy.
Là, tu dis « Bien, voyons donc, c'est... qu'est-ce qui se passe? » Vous autres, comment vous faites pour vous adapter à ça? Est-ce que vous faites juste dire « Bon, c'est un moment que je subis » ou « Ben, vous dites non » ou « Ben, vous dites oui »
Ben, une phrase que j'ai en tête là avec ce que tu me parles, c'est « C'est-tu quelque chose que je peux contrôler? » Tu sais, les gens qui cancellent leur entrevue,
ouais,
dernière minute, bon, tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas leur tordre un bras puis leur dire « Non, tu viens au show! » Fait que t'as pas le choix de passer à d'autres choses puis de t'adapter.
Ça peut être un vendeur d'assurance qui voit dans sa journée 10 clients canceller leurs assurances, ouais, alors que ça arrive jamais.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? T'sais, à un moment donné, c'est temporaire, ça va passer. Une des phrases qui me fait du bien ces temps-ci, c'est « On sauve pas des vies ».
Ben, si t'es pas médecin, là. Ouais.
Ben, c'est ça. Là, je suis définitivement pas médecin, puis donnez-moi pas ce job-là, OK? Personne. J'oublie trop d'affaires, puis je suis trop maladroite, OK? Puis j'aime pas le sang, ça part mal.
T'aimes pas le sang?
Non.
Non.
Je pensais que je voulais être médecin jusqu'à ce que j'aille un stage à l'âge de 15 ans avec ma marraine dans une opération à dos ouvert et que je passe proche perdre connaissance.
C'est vrai?
Ouais, j'ai fait ça.
Tu l'as vu?
Je l'ai vu, oui. Il ouvrait le dos, puis fallait... C'était quelqu'un qui avait une dystrophie musculaire, donc
ouais,
les muscles qui s'affaissent, c'est dégénératif. C'était un jeune de 18 ans, mais son corps s'affaissait, les muscles se défaisaient. Fait qu'il fallait aller placer une barre au niveau de la colonne vertébrale pour la redresser, pour épargner un peu les organes puis les poumons pour lui permettre de rester en vie un peu plus longtemps. Puis j'étais là, l'autre bord de la vitre, là, avec... le masque, le gros kit, puis je regardais ça. Puis quand ils ont ouvert le dos avec la scie, je me suis comme rendu compte que... La chirurgie, dans le fond, c'est comme la mécanique d'auto.
C'est comme la mécanique, oui.
Mais à travers la peau, hein?
Oui, exact.
N'est mal filé.
Toi, t'avais-tu le miroir quand t'as accouché?
Oui, je l'ai demandé à la fin. Ouais.
À la fin?
Okay. Je pensais pas le demander, mais ça aide vraiment à pousser.
Ouais, parce que moi, au début, j'étais pas à côté, le premier, j'étais plus en retrait, puis je regardais le bébé arriver.
Ouais.
Puis là, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, « Hey, ça ferait bien que je reste avec la mère, je regarde dans le miroir. » C'était pas quelque chose que je m'attendais.
Non, ça surprend. Ça surprend. Mais à la fois, tu sais, ce que je regardais, c'était la tête du bébé.
Ouais.
C'était pas le reste de la charcuterie, là.
Exact. C'est ça. Fait que la tête du bébé, c'était parfait. Mais là, avant...
Oui, parce que là, t'es comme, OK, elle est là. Fait que, tu sais, si je fais ça, OK, elle arrive plus vite. Si je fais ça, ça marche pas parce que j'avais la péridurale. Fait que je sentais pas ce qui se passait. Fait que de le voir, au moins, je comprenais un peu ce que je faisais qui fonctionnait. Fait que ça m'a aidé sur la fin.
Puis je me souviens, je sais pas si David s'en souvient, mais je me souviens, moi, du bruit que ça fait, le couteau quand je... Pas le couteau, mais le ciseau quand je coupais le cordon ombilical.
Ah, je me souviens encore du bruit. Ça fait quoi? Squeak! Ah, ouais.
Ouais, ça fait une affaire de même.
Fait que c'est pas fromage en crotte, là. C'est plus. c'est plus profond.
Tu sais que c'est un tissu, là.
Ouais.
Tu sais que c'est un tissu que tu.
Tu sais que le ciseau, il est bien affilé, là, tu sais.
Ouais, puis t'es supposé comme avoir un moment de fierté de couper ça, là. Mais non, pis... tu veux juste, tu te dis juste, j'ai fait du mal. tu sais, ça fait du mal. Elle ressent-tu de quoi, t'sais?
Ouais, non, on sent absolument rien. Bébé non plus.
Exact. Mais ça a été le fun à voir. Mais bref, comment vous faites pour vous adapter dans ces situations-là? Est-ce que vous, comme Elodie, est-ce que vous dites, ben, je n'ai pas le choix, fait que je vais passer au travers, ou ben vous piquez une syncope?
J'espère que c'est le choix numéro un.
J'ai l'impression que les filles, ils piquent des syncopes d'habitude, non?
Ça dépend qui. Ça dépend quand.
J'essaie de te faire fâcher un peu.
Oh, fais-tu le... Fais un bout que tu travailles avec moi, tu le sais, là.
Ah, je trouverais bien un piton sur lequel peser. Jérôme 50 sur les ondes de boulevard. On débute le show comme ça avec les ramasseux de canettes. Merci d'être là. Vous êtes dans l'open mic avec Élodie qui m'accompagne pour les prochaines semaines. Vous avez des choses à nous dire, de l'information à nous transmettre. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On a eu de l'information dans les dernières secondes concernant ce qui se passe dans la circulation entre 15 et 20 véhicules de policiers qui seraient en direction là, d'une place X, d'une adresse X qu'on n'a pas encore, avec un panel sprinter qui suivrait cette belle délégation de policiers. Fait que de ce que je comprends, c'est le GTI qui serait là. Donc, s'il y a une grosse opération, opérations dans votre secteur. Merci de nous en informer. 88-971-1021. Nous, on va essayer de notre côté de faire certaines recherches, puis quitte à communiquer avec les jeunes services de police de la Ville de Québec. OK, notre prochaine invitée, elle est là dans le cadre de la semaine de la Maison des jeunes. Son nom, c'est Janie Lamontagne. Elle est coordonnatrice de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine-d'Agen-Cartier. Elle est aussi intervenante pivot en exploitation sexuelle. Elle est en studio avec nous. Salut, Joanie.
Salut
Janie, pardon. Je t'ai appelé Joanie. Ça t'arrive souvent de te faire débaptiser?
Toujours.
Toujours. C'est qui rendu. Est dans l'erreur? C'est tes parents ou c'est nous autres?
Mais en fait, mes parents m'ont appelé Janie, mais moi, toutes les fois, je nomme mon nom, tout le monde là, se trompe. Même mes ados, souvent, je leur donne un petit surnom. Ou ils ont tendance à m'appeler madame, j'aime moins ça.
Ouais.
Ouais, la madame, il est rough. Hein,
le premier madame,
ouais. Ah oui. Oh, ça fait mal.
Mais au primaire puis au secondaire, c'est une habitude là, qui est encore en vigueur, donc les jeunes sont habitués.
Je pense que le pire, c'est quand tu te fais appeler monsieur par quelqu'un qui est de ton âge à peu près. Tu dis, OK, on est rendu là.
Ah, ouais, ben je trouve ça moins pire. Tu sais, non, un jeune qui me vouvoie ou qui m'appelle madame, je le trouve plus rough, moi. Tu sais, parce que tu vois, je vouvoie les jeunes. Puis on dirait que ça me dérange moins quelqu'un de plus vieux qui vouvoie. Mais c'est bizarre.
Ce serait un entraînement d'escorte. Donc, effectivement, ça se peut dans le cadre, quand on a reçu le pape à Québec, il y avait la gang, il y avait de l'air tellement à souffrir, là, tu sais, la gang de motocyclistes là, de la Ville de Québec, les policiers, là, il y avait de l'air à souffrir de faire ces entraînements-là. Ah. J'y regardais passer sur Grande Allée, je me disais, mon Dieu, que ce job-là est terrible.
Rouler en moto. Puis
c'est probablement ça qu'ils font. C'est le gros entraînement pour de l'accompagnement. C'est-tu des élections qui s'en viennent possible au niveau fédéral?
Ah, ben ça se brasse, ça se jase.
On est dans la semaine de la Maison des jeunes avec Janie Lamontagne. Janie, la semaine de la Maison des jeunes, on l'a mis en place, pourquoi exactement?
En fait, là, ça fait plusieurs années là, que c'est en vigueur, donc c'est par le regroupement des maisons de jeunes partout au Québec. Donc, si on va dans le coin de Montréal, si on va dans le coin de Charlevoix, parce que nous aussi, ici à Québec, on fait partie d'un regroupement qui est de la capitale nationale, mais le regroupement des maisons de jeunes, c'est vraiment à l'entièreté du Québec. Donc, on a créé une semaine qui est faite pour faire de la visibilité. En fait, pour cette semaine, en fait, c'est pour nos intervenants. Parce qu'en fait, on veut faire. On veut mettre en lumière là, que le travail de nos intervenants, c'est des experts. Nos intervenants, ils sont là pour nos jeunes, puis on trouve qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance.
Parce que là, tu me dis, ce sont des experts. Peut-être que le préjugé que les gens ont, c'est que ce sont des animateurs, un peu comme dans un camp de jour. « Ah, venez-vous-en, on va faire une activité. » Mais peut-être qu'on pense qu'ils vont pas tant que ça en profondeur, mais peut-être que tu peux nous décrire un peu les tâches des intervenants à la Maison des jeunes.
Oui, en fait, nos intervenants sont formés. Donc, c'est sûr que nous, on a des rencontres aussi inter-Maison des jeunes où on a des formations sur l'approche globale. Donc, c'est sûr qu'en l'approche globale, nous, on va prendre son jeune dans la globalité. Donc, si un jeune a un trouble en lien avec la consommation, ben, on ne fera pas juste travailler sur la consommation avec lui. Dans le cadre de la Maison des jeunes, on va aussi mettre plein de choses en perspective. Donc, c'est sûr que nous, notre Maison des jeunes, c'est comme un milieu de vie. Donc, quand nos jeunes viennent, on le prend dans sa globalité. Donc, si à ce moment-là, on vit dans la ville une situation, bien, c'est sûr qu'on va en parler. Donc, on va faire de la prévention au quotidien. C'est sûr qu'on fait aussi de l'animation, des activités, des choses comme ça. Puis, parfois,
pas
les
juste
jeunes.
Ça.
Oui, parfois, les jeunes vont au calendrier des activités, puis ils se disent ah, je vais venir pour cette activité-là. Mais sur place, on fait aussi toutes sortes d'interventions, toutes sortes d'activités de prévention qui ne sont pas nécessairement écrites dans nos communiqués ou dans nos agendas.
Les filles qui travaillent dans nos maisons de jeunes, ça peut être des gens qui ont des bacs en criminologie, ça peut être des éducateurs spécialisés, ça peut être des gens qui font travailleurs de rue, c'est quoi déjà?
En fait, nos travailleurs de rue peuvent être issus là, de plusieurs domaines.
Voilà.
On peut être intervention à la délinquance.
C'est ça, intervention délinquance.
Oui, effectivement, travail social. On a des gens aussi qui vont à l'université, c'est ça, en psychologie. Tous les intervenants là, ont tous un bagage en relation d'aide.
Fait que c'est tous des gens extrêmement bien formés, contrairement à ce qu'on pouvait avoir quand on était au camp de vacances où le jeune de 14 ans jasait avec des jeunes de 7 ans.
Pas pareil, là.
En disant, bon, vas-tu se baigner? C'était le fun, pareil, mais c'est des gens qui sont dûment formés.
Oui, effectivement. Ils sont formés, puis on est tout le temps à l'affût aussi des nouvelles technologies, de tout ce qui se passe dans le monde de nos adolescents. Nous, on est aussi formés même au niveau des médias sociaux. On a un regard un peu sur tout ce qui les touche, les adolescents. Donc, on est tout le temps en train de se perfectionner. Donc, c'est pas juste aussi au niveau de la scolarité quand on fait nos études. Exemple que moi, j'ai fait une technique en éducation spécialisée. Suite à ça, quand j'ai rentré en maison de jeunes, je me suis performée. Les maisons de jeunes m'offrent aussi des formations pour compléter un peu mon bagage, puis tout le temps être mettre à jour.
Pour parler le même langage que les jeunes. Parce que s'ils commencent à te parler, je sais pas, on parlait de consommation de drogue tantôt. Si t'es pas au courant de ce qui est à la mode ces temps-ci, de ce qui se passe à la polyvalente à côté de chez vous, ou des surnoms des drogues qui sont utilisées, des façons d'en parler sur les médias sociaux entre les jeunes pour pas se faire pogner, mais tu peux pas faire ta job comme faut, là.
Non, c'est ça. Faut tout le temps être à l'affût. Puis c'est pour ça aussi que nos jeunes, là, ils nous apportent énormément au quotidien. Mm-hmm. Autant que nous, on leur amène beaucoup, beaucoup de prévention, d'information. On est tout le temps à l'affût de ce qui se passe dans les nouvelles. Mais eux, en tant que tels, nous apportent énormément d'informations. Puis ça, après ça, ça nous permet de mieux les outiller, de aussi parler du vrai et du faux. Parce que souvent, ce qu'ils entendent, c'est pas nécessairement la vérité. Puis même quand on parle des drogues, ils vont nous rapporter des informations qui sont pas tout le temps vraies. Donc nous, on est là pour nuancer aussi, faire beaucoup de prévention là, sur la conso, mais sur tout ce qui est aussi... Vous avez parlé que j'étais intervenante en exploitation sexuelle. Mon rôle, c'est aussi d'avoir un regard chez les jeunes. Donc, quand ils me parlent de leur quotidien, moi, j'écoute. J'essaie de voir aussi quels sont, dans le fond, les éléments qui pourraient, ben, en fait, prévenir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, mais aussi quels sont les éléments de danger, vers quoi le jeune s'en va.
Ouais. Comment vous faites pour amener le lien de confiance avec les jeunes? En tant que père, des fois, je me rends compte qu'on a comme un biais de proximité avec nos enfants. Quand on leur dit quelque chose, ils ont comme, sont comme toujours réfractaires. Mm-hmm. « Ah, mais c'est juste mon père qui le dit. » Quand c'est l'entraîneur de hockey qui va le dire, « Ah, ben là, l'entraîneur m'a dit telle affaire. »
C'est vrai.
Dans votre cas, vous autres, comment vous faites pour avoir une entrée dans l'estime de ces enfants-là qui, à chaque fois, vous allez leur dire, « Ben, savez-vous quoi? Ça existe, l'exploitation sexuelle. » Voici comment un gars peut approcher une jeune fille dans le but de l'exploiter sexuellement, puis vous parlez de la désensibilisation et tout ça. Faites comment pour aller chercher ce lien-là?
Bien, en fait, c'est d'être présent au quotidien. Ouais. C'est sûr que l'adolescence, là, c'est une phase. Hein? Souvent, on entend, même j'entends à la radio des fois des pubs, là, humeur ado, mais en fait, c'est normal. T'sais, la phase de l'adolescent, donc nous, c'est de le prendre dans sa globalité puis d'être là au quotidien. Donc là, on anime, c'est sûr, des activités, des choses qui vont aller dans leurs intérêts, mais c'est aussi d'être présent pour eux. La forme, des fois, de parents, l'autorité à cet âge-là, c'est un peu plus difficile. Souvent, on parle aux parents, on dit, ben oui, tu peux quand même être là, tu peux quand même l'écouter, mais les gens, souvent, comme les intervenants ou les gens, comme vous dites, un coach de hockey, mais c'est un peu moins dans le personnel. On va être présent dans le quotidien, puis à force de créer des liens au quotidien, des activités, on va aller cibler leur centre d'intérêt. Puis là, on va créer des connexions aussi avec les jeunes. Donc, moi, exemple, j'aime ça aller au skatepark, j'aime ça aller rejoindre les gars, jouer au hockey. Mais c'est sûr que j'ai plus de facilité à aller chercher ces liens-là significatifs avec ces jeunes-là avec qui j'ai des intérêts communs.
Je lisais dans un sondage qui a été fait concernant la semaine de la Maison des jeunes, mais en 2023, il y avait plusieurs jeunes qui fréquentent des maisons de jeunes qui avaient répondu à des questions. Mm-hmm. Il y avait 70 % des jeunes qui ont répondu au sondage qui ont dit qu'ils ont confié quelque chose à un intervenant à maison de jeunes qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre. Donc, ce lien-là, il est important. Mais s'il y a un gros roulement dans votre milieu puis que c'est toujours des nouveaux employés puis du nouveau monde, est-ce qu'on passe à côté de l'opportunité d'avoir ce lien-là?
Effectivement. Puis c'est vraiment un gros enjeu dans nos milieux en ce moment. Là, c'est vraiment la rétention de personnel. Donc, nous, on vise vraiment à ce que les jeunes aient des intervenants qui sont là puis qui restent dans leur milieu. Donc,
Reste présentement?
Non. En fait, présentement, on a un très, très gros roulement là, au niveau des maisons de jeunes. Puis on dit que c'est deux intervenants sur trois qui ont moins de 3 ans d'ancienneté. Alors que avant, là, c'était 50 % là, des intervenants qui étaient là depuis 5 ans. Là, donc là, en ce moment, on a un roulement. Des fois, les intervenants sont là depuis 6 mois, 1 an, puis là, ils changent de milieu parce que soit ils se rapprochent de leur maison ou tout simplement parce qu'ils changent à cause que le taux salarial n'est pas assez haut.
Oui, puis parlons-en. Petit jeune qui est venu à la maison la semaine passée, qui travaille chez Ronald, 19,50 $
Eh boy!
19,50 $ pour travailler chez Ronald McDonald.
C'est bien payé.
Un intervenant qui a un diplôme, là, qui commence à travailler pour la Maison des jeunes, c'est combien?
21,15. Alors, il n'y a pas une grosse différence. Là. Donc,
tu pourrais aller chez
choix.
Ronald puis voir aucune différence dans ta paye, pratiquement.
Oui, avec les impôts puis tout. Puis c'est parce que la charge mentale que tu as quand tu reviens à la maison versus quelqu'un qui a un emploi, justement, tu sais, en restauration ou quelque chose comme ça, t'en as beaucoup plus sur tes épaules, puis t'as plus de risques de tomber à un moment donné, de vivre un traumatisme.
Puis t'as peur de te tromper.
Oui, parce que ton erreur, elle coûte cher.
Tu te trompes dans une commande. T'as pas mis de viande dans ton Big Mac. Bon, tu vas te faire dire, regarde, la prochaine fois, fais attention. Mais tu jases avec un jeune, tu brises un lien de confiance, ou il y a un jeune que t'as l'impression qu'il est en danger parce qu'il y a des gangs de rue qui commencent à tourner autour pour l'infiltrer. Eux autres, ils ramènent ça à la maison, là.
C'est sûr que nous, on a des équipes de travail avec qui on discute de ça, puis on est capable ensuite de trouver des solutions. Par contre, c'est vrai que la charge mentale, puis tout le travail là, que l'intervenant doit faire par les références, par après ça, ben nous, on remplit là, des rapports pour des statistiques et tout, pour ensuite être capable de mieux les accompagner, ces jeunes-là. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail qui est sous-estimé.
Mm-hmm. Les jeunes ne le voient pas souvent, ce travail-là. Tu sais, eux autres, ils vont juste jaser avec des amis un peu plus vieux, des gens qui sont pas trop en position d'autorité, de ce que je comprends. Tu sais, c'est plus la proximité qu'on va... Mais après la job, c'est ça, tu vas faire des rapports, tu vas faire un suivi, tu vas peut-être parler à d'autres professionnels qui ont une expertise plus liée avec le jeune et tout ça. J'imagine qu'avec l'expertise que tu as, il y a d'autres jobs que tu pourrais faire qui seraient plus payantes dans le milieu privé comme dans le milieu public.
Effectivement. Puis tu sais, les gens là, qui choisissent de travailler en maison de jeunes, c'est pas par salaire, c'est pas par condition, c'est parce qu'ils voient le potentiel que ces adolescents-là ont. Wow. Puis les maisons de jeunes, c'est tellement des beaux filets de sécurité. Puis c'est ça que je veux mettre en lumière, c'est que nos adolescents qui viennent en maison de jeunes, ils s'intègrent à un groupe, ils créent des liens de confiance, ils font des activités qu'ils ne feraient pas à l'extérieur. Puis souvent, même nous, on fait des sorties, ça leur permet d'aller des fois à des endroits qu'ils ne peuvent même pas aller parce que des fois, le milieu ne fait pas ces genres de sorties-là ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous, nos jeunes aussi font beaucoup d'autofinancement, donc on n'a pas le choix là, parce que présentement, on a aussi, c'est aussi une question là, de revenus. En fait, nous, par le PSOC, donc le programme là, pour les organismes communautaires qu'on reçoit du gouvernement, n'est pas assez élevé. Donc, nos maisons de jeunes n'ont pas le choix de faire des autofinancements pour subvenir à leurs besoins.
On sort-tu des chiffres?
On peut.
Le budget moyen des maisons des jeunes est d'environ 156 000 $ par année pour couvrir les salaires, le fonctionnement, les activités. Donc, c'est environ le tiers des besoins réels. Fait que tu es en train de me dire qu'on va aller financer le reste avec des lavotos, des soupers spaghettis, mettons?
En fait, effectivement, nous, on anime une disco là, qui est très populaire trois fois par année.
Ah, c'est le fun, les discos!
Oui, effectivement, pour nos 6-11 ans, là, c'est vraiment une super de belle soirée, mais nos adolescents là, de 12 à 17 ans, qui, eux, sont bénévoles, c'est vraiment des soirées là, qu'eux doivent travailler fort pour ramasser ces sous-là. C'est sûr que c'est de l'argent qu'ils peuvent avoir dans leurs activités, dans leurs sorties, mais c'est quand même de l'argent qu'on a besoin aussi pour faire fonctionner nos maisons de jeunes. Parce que comme tu l'as dit, elle a dit, en fait, environ par maison de jeunes, c'est 691 000 qu'on aurait besoin pour faire fonctionner la maison de jeunes, alors qu'on a en moyenne un maximum de 175 000 par maison de jeunes.
Fait que vous faites beaucoup avec peu.
Effectivement.
Puis on parle des jeunes depuis tantôt, mais tu sais, ils vont là sur une base volontaire. Oui. À l'inverse, mettons, les centres jeunesse font beaucoup l'actualité ces temps-ci, bon, avec qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, tu sais, au gouvernail, en maison de réadaptation. Tu sais, là, on a vraiment des gens, des jeunes qui viennent peut-être de la DPJ ou encore qui sont en lien avec le système de justice québécois. Vous autres, ça peut être n'importe quel jeune qui va chez vous. Fait que c'est pas juste des jeunes à problème. Je veux dire, il y en a, mais des fois, tu vas juste parler de la peine d'amour de la petite Elena ou de la game de soccer de Justin, là, tu sais.
Oui, puis c'est pour ça que nous, on est vraiment dans l'approche globale. Nous, quand le jeune vient en maison de jeunes, on cible pas son besoin puis on regarde pas dire, lui, ce jeune-là, il vient pour telle raison. Non, non, on va le prendre dans sa globalité. On va aller chercher un peu tout son potentiel. On va tout faire en œuvre pour que ce jeune-là puisse shiner, puisse pouvoir grandir, même s'il y a des besoins. Puis après ça, un coup qu'il est intégré, on a un lien de confiance et tout, ben là, on ira voir un peu son besoin, puis là, on ira creuser.
Janie Lamontagne, c'est quoi les plus gros tabous que vous subissez à la Maison des jeunes?
Ben c'est sûr que moi, ce que j'aimerais mettre en lumière aussi, là, qui est vraiment un tabou, c'est qu'on entend beaucoup que les maisons de jeunes, c'est un endroit pour les petits bums, pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui ne cadrent pas. Alors que c'est tout l'inverse, là. Monsieur, madame, tout le monde qui viennent dans notre maison des jeunes réalisent qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes. Puis surtout, c'est issus de tous les milieux. Il y a des jeunes, effectivement, qui ont des besoins, puis il y en a d'autres qui viennent pour socialiser parce que l'activité qui était à l'horaire avait l'air intéressante, parce que le vendredi, country, bien, ça fait partie de ses valeurs. Puis lui, il a envie de venir danser country cette journée-là. Ça va peut-être être la petite journée qui va faire qu'il a réalisé l'ampleur que la maison des jeunes peut lui apporter, puis après ça, il va venir régulièrement.
Puis les jeunes peuvent trouver l'horaire des maisons de jeunes. Comment?
En fait, là, on peut aller sur le site des maisons de jeunes Capitale-Nationale. Donc ici, là, c'est de Charlevoix à Portneuf. Donc les jeunes peuvent aller là pour voir c'est quoi la maison des jeunes de leur secteur. Puis ensuite, chaque maison des jeunes a ses réseaux sociaux. On est vraiment sur tous les réseaux sociaux. On veut aller attirer nos jeunes.
Vous êtes sur TikTok?
Oui, on est sur TikTok, nous. Pas tout le monde qui est sur TikTok, par exemple, là, mais nous, nos jeunes aimaient ça puis avaient le goût de participer. Okay.
Fait que c'est votre meilleure publicité, je pense que c'est le bouche à l'oreille. Des jeunes qui se jasent à l'école en disant hey, « Moi, je vais faire un tour une fois de temps en temps à la maison de jeunes, viens donc avec moi. »
Ou des parents, tout simplement, qui voient que le jeune est en maison, il ne sait pas trop quoi faire. « Hey, savais-tu qu'il y a une maison des jeunes ici? » Puis maintenant, nos logos là, se ressemblent. Donc, c'est facile de se promener, voir un logo, faire comme « Hey, il y a une maison des jeunes, là! » Tu sais, puis de pouvoir rentrer, aller faire un tour, on va voir. Ça, c'est pas une soirée pour nous, on sort, on revient une autre fois. Puis souvent, c'est de même que les jeunes finissent par venir régulièrement.
Je suis allée voir vos médias sociaux, d'ailleurs. Oui. Puis justement, ça paraît que vous voulez parler le même langage que les jeunes. Tu sais, c'est dynamique. Tu sais, oui, il y a de l'information, il y a l'horaire, des activités et tout ça. Mais je voyais, entre autres, une vidéo où vous parliez d'un service que vous offrez. J'imagine que c'est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être même toi qui faisais la vidéo sur l'analyse de drogue.
Oui.
Peux-tu me parler de ce service-là?
Ben, pardon. En fait,
t'as même le droit de prendre une petite gorgée d'eau si tu veux là.
En fait, les bandelettes là, en fait, c'est pour la détection de fentanyl. Okay. Parce que on sait qu'il y a une grosse crise là, de surdose au fentanyl un peu partout au Québec. Au début, on entendait ça à Montréal, mais ça peut venir jusqu'ici là. Puis nous, on offre ce genre de service. C'est sûr que nos jeunes, quand ils viennent à la Maison des jeunes, c'est pas la première chose que je leur parle.
Ben vraiment, j'imagine, c'est quand même edgy là.
Effectivement.
Hey, bonjour, j'aimerais faire tester ma drogue. Tu sais, ça prend justement un gros lien de confiance pour en arriver là, j'imagine.
Mais on en a des jeunes là qui arrivent là à 16, 17 ans, qui vont venir, qui vont avoir vu cette vidéo-là, puis qui vont venir, puis qui vont être très ouverts, puis moi, je les prends dans mon bureau, puis je leur fais justement ce petit cours-là. Mais en fait, c'est aussi de la prévention. Mm-hmm. Parce que d'une certaine façon, quand on comprend aussi qu'il y a un danger, puis qu'on voit aussi la façon de faire, puis qu'on se rend compte que c'est facile de tester, bien après ça, un jour, quand ils vont voir des gens consommer ou ils vont tout simplement eux-mêmes essayer, bien ils vont avoir encore le souvenir de Janie qui leur expliquait ça à la Maison des jeunes, puis aussi de rendre ça le plus accessible et le plus banal possible. Parce que parfois, ce qu'on se rend compte, c'est que nos jeunes, ils pensent que c'est niché. T'sais, que c'est impossible là, qu'ils aient ça dans leur drogue. Puis que si, là, même dans, t'sais, exemple, qu'ils vont voir une personne puis qu'ils leur montrent ce qu'ils consomment, ils vont dire c'est impossible, nous, qu'à Sainte-Catherine, on puisse avoir ça. Ils n'auront pas le réflexe d'en parler ou de dire « Hey, tu pourrais tester avec une petite bandelette. » Puis surtout, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que les petites bandelettes, là, ça n'enlève pas aussi. Soit les gens ont peur de tester parce qu'ils vont se dire « Ah, je vais perdre de la ouais. drogue » ou « Je pourrais... » Au contraire, là, nous, on a une façon de faire pour qu'il y ait un petit mini grain là, qui nécessite. Parce qu'on dit que c'est 4 grains de sel que ça prend pour faire une surdose au fentanyl.
4 grains de sel?
4 grains de sel. C'est donc, miaise. Moi, ce que je fais comme image à mes jeunes, je prends un sac complet de farine, je mélange un petit peu de sel à l'intérieur puis je leur montre, je dis « Es-tu capable de me trouver les 4 grains de sel? »
Non.
Non. C'est impossible à l'œil nu aussi à voir.
Ouais.
Ben en fait, c'est ça. Tu sais, quand on consomme, on ne peut pas le voir à l'œil nu, puis on ne peut pas aussi penser que la concentration est égale. Parce que quand ils font leur comprimé, quand ils dispatchent les batchs, c'est impossible à voir à l'œil nu. Donc, ça se peut qu'il y ait un comprimé qui en ait beaucoup à l'intérieur, puis qu'il y en ait d'autres qui n'en aient pas du tout, alors que ça provient de la même batch.
OK.
Wow.
Bon, t'es intervenante pivot en exploitation oui. sexuelle chez les jeunes. Parle-moi de sans nommer de nom, bien entendu, puis en respectant l'anonymat de tes jeunes, je savais que t'allais le faire, mais c'est juste pour enlever l'inquiétude chez certains individus. Y en a-tu tant que ça à Québec, des gens qui se font approcher pour de l'exploitation sexuelle?
Bien, on voit en fait le crime organisé là, de plus en plus qui est désorganisé. On entend aussi parler beaucoup de recrutement dans les médias sociaux.
Ouais.
Donc moi, ce que je dirais, c'est pas que c'est plus répandu, c'est que c'est plus facilement accessible à monsieur, madame, tout le monde en région parce que les médias sociaux vont disperser beaucoup les réseaux. Puis je pense que aussi ce qui est vraiment... à la mode, je dirais, c'est les jeunes filles puis les jeunes garçons qui voient l'argent facile dans les vidéoclips. C'est vraiment par la diffusion sur les médias sociaux qu'ils voient un peu le beau côté de ça, puis ça a donc bien l'air facile, puis ouais. c'est donc bien accessible. Donc là, c'est ça qui est inquiétant chez nos jeunes présentement. C'est vraiment tout ce qu'ils ont comme information via les réseaux sociaux.
Mais ça, Janie, t'es l'experte, là, fait que tu sauras me dire si j'erre dans ma pensée, mais j'ai l'impression que ces groupes criminalisés-là ciblent des gens qui sont déjà... qui ont déjà certains manques. Je sais qu'il y a des centres jeunesse qui sont uniquement pour les filles à Québec, et le crime organisé, les gangs de rue, ciblent précisément ces jeunes filles-là, parce qui savent que, bon, au niveau du modèle de père, c'est peut-être pas l'idéal. Ces jeunes filles-là pourraient peut-être chercher leur père ailleurs. Et ces jeunes-là sont très au fait de ça. C'est des gens qui sont extrêmement brillants, même si c'est des criminels.
Mais des fois, tu l'utilises pas à bon escient.
Fait qu'ils vont aller chercher ces jeunes filles-là, je veux dire, parce qu'ils détectent une faiblesse chez ces jeunes filles-là. Est-ce que dans la population en général, sont aussi convoités plus que dans les centres jeunesse pour filles?
Bien, en fait, vous avez mis le doigt dessus. C'est sûr que notre jeune, là, qui est à un moment de critique dans sa vie, qui a un trouble d'estime de soi, que c'est plus difficile dans ses relations, puis qu'elle n'a pas de lien significatif autour d'elle, bien, c'est beaucoup plus facile de croire les paroles d'un garçon qui lui dit qu'elle est donc belle, qu'elle a le potentiel de faire donc bien de l'argent, ou tout simplement qu'il donne des cadeaux. Tu sais, pour un jeune qui a un trouble d'estime de soi ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que c'est... plus facile d'aller chercher ces jeunes-là. Mais nos statistiques nous prouvent qu'il y a des jeunes issus de bonnes familles, qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas vraiment de troubles au niveau de leur estime de soi, qui ont quand même vécu là, l'exploitation sexuelle. Donc, c'est sûr que oui, ça peut être un facteur de risque, mais nous, ce qu'on peut mettre en place, par exemple, c'est des facteurs de protection. Okay. Puis en maison de jeunes, c'est vraiment ça qu'on fait. Nous, on est un filet de sécurité, on voit ça comme ça. Nos jeunes qui viennent en maison de jeunes, là, ils se créent un noyau de jeunes, ils se créent des habitudes, ils vont avoir des nouveaux cercles d'amis. Puis souvent, bien, les jeunes en exploitation sexuelle, ce qu'on remarque en premier, c'est leur cercle d'amis qui change. Donc, ils se mettent à avoir des amis différents, des gangs qui font peut-être plus des mauvais coups. On les voit arriver avec plus de des nouveaux vêtements.
Ça, c'est un drapeau rouge pour les parents.
Effectivement, c'est un red flag à avoir comme parent quand mon jeune change de comportement, quand mon jeune a des nouveaux amis qui
sont... Moi, c'est à chaque fois que je descends en cave. Ouais. Il change de comportement, je me dis « Ah, il faisait un mauvais coup.
» Bien, c'est ça. Des fois, ça peut être dans leur façon d'être, ouais. Mais... pour vivre aussi avec des jeunes qui... Tu sais, l'adolescence, c'est aussi une phase où ils se cachent de leurs parents. Okay. Fait que c'est pas nécessairement un facteur de risque de l'exploitation sexuelle.
Tu les approches comment, ces jeunes-là, pour les outiller face à ces gens-là mal intentionnés qui vont les approcher? Est-ce que tu leur parles du modus operandi des gangs de rue pour approcher les jeunes filles? Il va te faire... il va te vendre du rêve, il va te dire qu'il est en amour avec toi, que t'es belle, il va vouloir t'acheter des cadeaux et tout ça. Par la suite, il va essayer de te désensibiliser. « Hey, je t'ai donné beaucoup de drogue, là, je commence à manquer d'argent, il y a mes chum qui voudrait faire un trip à trois, tu sais, puis il nous donnerait 500$, ça te tente-tu d'embarquer? Puis là, ben, la jeune fille.
Je t'aime, droguée, t'es capable, ben oui. Si tu m'aimes, tu vas le faire. Mais c'est sûr qu'on est dans la manipulation verbale.
T'es ma queen! OK, t'es j'ai trop queen. Écouté, fugueuse!
Ben, en fait, là, nos jeunes, on a des jeunes en exploitation sexuelle qui vont nous dire que ça ressemble beaucoup au bagage de Fanny dans Fugueuse. Ouais. T'en as d'autres que. Un peu plus nuancé. Mm-hmm. Puis, il y a aussi un programme là, qui s'appelle Les Survivantes, qui est par la Sûreté du Québec. Donc, c'est des femmes qui sont sorties de ce milieu-là, de l'exploitation sexuelle, puis qui peuvent faire des témoignages auprès des jeunes. Donc, ma première étape, quand il y a un jeune que je vois, c'est sûr que je ne les ferai pas rencontrer une survivante. Au départ, je vais essayer justement de mettre des petits signes dans nos discussions. Je vais essayer de justement faire voir un peu le côté négatif de la chose, mais aussi de tout le temps faire de l'ambivalence dans ses choix, puis de créer chez elles justement un questionnement. Puis, ce qui est vraiment important, là, c'est vraiment de garder le lien de confiance. Peu importe de ne pas briser le lien de confiance, même si la jeune, ce qu'elle nous dit, ça peut être trash, ça peut être confrontant. Des fois, on se dit, voyons donc, elle ne s'en rend pas compte. Ben non, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. Fait qu'il faut garder ce lien-là, puis être capable d'être là. Mais regarde, je vais être là quand ça n'ira pas. Même si tu sais que ça fait 4 fois qu'elle a des viols collectifs, ben la fois où elle va avoir besoin de parler, ben tu vas être là. Fait que c'est ça qui est difficile en tant qu'intervenant, c'est que tu entends parfois des choses qui sont trash, mais faut que tu gardes ton lien parce qu'au moment où ils ont besoin de toi, ben il faut qu'elle sache que tu vas être là pour l'écouter puis que tu la jugeras pas.
Puis ces gars-là se pointent-tu à la porte des maisons des jeunes des fois?
Ben en fait, là, nous, c'est ça, on travaille autant avec les victimes, mais on peut travailler aussi avec les garçons. Moi, j'ai des garçons qui sont aussi à risque de proxénétisme. Moi aussi, les maisons de jeunes sont aussi des facteurs de protection pour ces jeunes-là. Moi, j'ai des jeunes qui vont valoriser les vidéos de gangs de rue où ils ont des armes. J'ai des jeunes qui vont me parler des armes puis qui vont me dire « Hey, c'est cool, moi, j'aimerais ça me promener avec un AK-47 ». Tu sais, déjà là, c'est des signes où tu dis, voyons, comment ça, ils valorisent les armes, ils valorisent donc bien les jeunes femmes dans les vidéoclips qui sont à moitié tout nus puis qui montrent de l'argent. Il y a même des rappeurs qui en font la promotion, qui le disent dans leurs chansons. Moi, la fille, je la fais shift. Tu sais, la fille, je la fais travailler pour moi. Puis les jeunes entendent ça dans les chansons de rap puis ils se disent, ah ben, c'est cool.
C'est comme une normalisation du proxénétisme.
Effectivement. Puis on le voit aller là, dans nos réseaux sociaux. Puis pas juste aussi du proxénétisme, mais aussi des armes. T'sais, nos jeunes, ils vont montrer des armes sur leurs réseaux sociaux. Ils vont porter des cagoules. Puis ça, c'est dans de la marchandise de groupes de musique. Les rappeurs vendent des cagoules à l'effigie de leur... de leur rappeur préféré. Les jeunes, nous, on a vécu ça, des jeunes qui ont des cagoules, pas parce qu'ils sont armés ou parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils veulent être cool puis ressembler à leur rappeur préféré.
Le fameux sentiment d'appartenance.
Effectivement.
Hein?
J'éclate de rire. Mes gars arrivent à la maison avec des cagoules. Oh, pauvres parents.
Mais tu sais, je t'entends parler puis je me pose des questions, tu sais, au point de vue. Évidemment, tu fais attention pour pas monter sur tes grands chevaux tout de suite, comme tu dis. La fille, ça fait 4 fois qu'elle subit des choses terribles. Ouais. Faut que je sois là pour l'écouter. Faut que je la fasse sentir comprise, lui dire que je reste avec elle, que je suis là et tout. Y a-tu des moments où tu n'as pas le choix, mettons, de monter ça au niveau de la police? Tu sais, à partir, elle est où cette limite-là? Parce que je la connais pas en tant que citoyenne ordinaire, puis j'espère qu'à un moment donné, tu as un pouvoir d'embarquer dans patente puis de dire, là, il faut que cette personne-là, mm-hmm. elle rencontre un policier, là, tu sais.
Bien, en fait, là, ce qui est important à dire, c'est que monsieur, madame, tout le monde qui a un doute, qui a des informations, se doit d'appeler la DPJ, un service de police, où il y a même des lignes là, anonymes, là, le 641 Agir, où on peut donner des informations si on a des doutes ou si on a des inquiétudes par rapport à une situation ou à un jeune. Nous, en maison de jeunes, on va tout le temps essayer de garder le plus possible la confidentialité jusqu'à ce qu'il y ait justement un danger pour le jeune. Mmh. Donc, à un moment donné, on n'aura pas le choix là, de faire un signalement. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le signalement par un jeune, par une amie, par un parent, par quelqu'un, mais que l'intervenant ramasse les informations pour être capable quand même au besoin de
lui aussi dénoncer. Pour pas couper le lien.
Mais nous, en tant que tel, on essaie le moins possible de faire le signalement pour pas couper le lien, effectivement.
Je comprends, parce que c'est des informations précieuses qui rentrent pareil.
Oui, mais moi, je vais trouver une façon, de toute façon, à ce que mon signalement soit fait, soit retenu. Puis si jamais le jeune est vraiment en danger puis j'ai pas le choix, c'est sûr que je vais finir par le faire à la maison de jeune. Mais en même temps, moi, ce que je veux, c'est qu'il garde un filet de sécurité, qu'il y ait au moins un intervenant significatif qui reste présent au cas.
Ça arrive-tu souvent dans une carrière comme la tienne, de faire ça?
Bien, en fait, oui. Bien, moi, ça fait 7 ans que je suis là, puis c'est sûr que j'en ai rencontré des jeunes qui étaient à risque. C'est sûr qu'on en voit aussi. Moi, j'étais en région, puis je pourrais dire qu'il y en a en région aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas juste à Québec ou à Montréal, mais ça arrive dans notre carrière là, qu'on doit accompagner des jeunes comme ça.
C'est comme le fentanyl, c'est pas juste à Montréal.
Effectivement. Ouais. C'est sûr que c'est pas tout le monde, puis c'est vraiment pas la majorité de nos jeunes, au contraire. Là, tu sais. Mais reste qu'il faut quand même être tout le temps à l'affût, puis tout le temps observer, parce que même ces jeunes-là, là, quand ils tombent dans l'exploitation sexuelle, c'est sûr qu'on va les voir moins. T'sais, si moi, j'ai pas créé un lien avant, là, ben, le jour où la jeune là, va avoir une relation là, qui se concrétise puis qu'elle va commencer à être un peu plus dans la relation de violence, ben, je la verrai de moins en moins. Mm-hmm. Parce que c'est sûr qu'il va l'exclure puis que son réseau va changer.
Il va tenter de l'isoler au maximum. C'est la raison pour laquelle il change de ville. Là, mm-hmm.
Oui.
Maintenant, Montréal, c'est beaucoup trop proche. Donc, pour la plupart, ils vont essayer de les envoyer à Toronto.
Saguenay, des fois.
Ils les apportent au Saguenay.
Ah oui, dans le fond, tu sais...
C'est vrai que la langue, elle peut être différente des fois. Là,
ah là là!
Ben, le but c'est juste de faire une période tampon ailleurs.
Okay.
Fait que ça peut être un Airbnb loué à Les Etchemins, à Baie-Saint-Paul, mais le but, c'est de les éloigner de leur centre où ils sont présentement.
Parce qu'on m'avait dit Toronto, en raison de la langue, là, c'est des hommes d'affaires.
Ça, c'est un peu plus tard.
Eux autres, ils parlent anglais, ils parlent pas français, ils veulent faire ce qu'ils ont à faire avec des jeunes filles, puis après ça, ils sacquent leur camp. Fait que la jeune fille, peut pas faire nécessairement d'appel à l'aide parce qu'elle est pas habituée de parler anglais. Puis l'autre, lui, il parle juste anglais. Fait que c'est plus facile pour eux autres de les isoler de cette façon-là.
Fait que c'est plus tard un peu, mettons.
Ouais. Ben, en fait, il peut en avoir, là, que c'est vraiment le chemin direct. Par contre, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que les jeunes vont être isolés dans plusieurs régions, les régions, puis parfois des Airbnb. Là, c'est un peu des endroits faciles, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'accès. Les gens pensent qu'ils ont loué un Airbnb pour une semaine. Donc là, la personne va vivre peut-être un premier traumatisme à cet endroit-là, va la garder dans cet endroit-là pendant une semaine, puis oups, va la changer de place, va l'envoyer à Montréal, à Toronto. Mais souvent, c'est vraiment juste une question de faire de l'argent. T'sais, si la personne ne rentabilise plus à cet endroit-là, ben là, ils vont l'amener ailleurs.
Ouais. Jusqu'à quel point vous êtes lié par le secret professionnel? Un peu comme, je sais pas moi, les médecins, si c'est un psychologue. Oui. Si la vie de la personne n'est pas en danger ou si la vie de quelqu'un d'autre n'est pas en danger, vous gardez ça pour vous?
Bien, en fait, les adolescents ont le droit à partir de 14 ans à la confidentialité.
Ouais.
À partir de 16 ans, c'est encore plus important au niveau de la sexualité et tout. Nos jeunes peuvent nous confier des choses sans qu'on ait besoin de faire de signalement. Parfois, c'est juste des conflits, des problèmes dans leur relation personnelle, leur relation familiale qui ne les mettent pas en danger. Mais au moment où il y a un danger pour le jeune, bien, on n'a pas le choix, on va trouver une façon de faire un signalement en tout temps.
Wow! J'ai une fille là, de 1 an, là. Puis là, je pense à plein d'affaires depuis le début de l'entrevue. Mais à la fois, tu vois, je serais sécurisée que mon enfant fréquente un lieu comme la Maison des jeunes parce que, justement, je sais qu'il y a un encadrement, mm-hmm. je sais que c'est des choses qu'elle n'ose pas me dire à moi. C'est de là que c'est important de savoir à quel point c'est important pour un jeune d'avoir d'autres adultes autour de lui que ses parents. T'sais, on peut être là pour eux. On peut leur ouvrir les bras grandement, puis être le parent le plus cool, le plus ouvert du monde, mais l'adolescence est ainsi faite.
Effectivement.
Ils se sentent tellement différents, puis ils veulent avoir leur monde à eux. Mmh.
Mais ils veulent se connaître.
C'est de là l'importance d'avoir des professionnels. Votre thématique, là, on a commencé l'entrevue en disant « Vous êtes des experts pour les jeunes ». L'expertise que tu nous amènes ici, c'est beaucoup plus que juste de l'animation de camp de jour, justement.
Effectivement, nous, on fait de l'animation, mais c'est une simple partie dans notre... Nos intervenantes s'appellent des animatrices intervenantes parce qu'elles font pas juste de l'animation. Elles interviennent au quotidien, elles font de la prévention, elles sont formées. Puis c'est vraiment intéressant là, de les voir travailler puis de les voir entendre un peu les informations puis de se travailler.
Pas au féminin?
Ah, ben en fait, dans mon équipe, de travail, on est des filles, mais non, il y a aussi des animateurs intervenants garçons, mais c'est encore une fois très rare, puis c'est une belle ressource, les garçons, là, parce que justement, ils apportent une autre perspective, puis pour nos jeunes aussi, d'avoir des beaux modèles masculins, d'une belle masculinité positive, pour nous, c'est vraiment des beaux outils, nos garçons.
Ils vont comment, nos jeunes? C'est-tu des jeunes qui se permettent encore de rêver? Moi, quand j'étais jeune, je viens du centre-ville de Québec, puis je voyais des gens qui fréquentaient les maisons de jeunes, puis je les côtoyais, puis on avait tous encore l'impression qu'on pouvait faire n'importe quoi de notre vie, qu'on pouvait devenir n'importe quoi. Puis dans les dernières années, j'ai rencontré des gars qui sont autour de 30 ans, un qui m'a marqué il y a 3 semaines, on jasait hors d'onde, c'était sur Zoom, puis on avait une entrevue avec cet individu-là, puis je sais pas pourquoi, mais la question de « tu vas-tu avoir des enfants à un moment donné » est arrivée. Puis là, il a dit une affaire comme « Ah, je sais pas, avec l'environnement, je crains le pire pour le futur et tout ça. » Puis là, je me suis dit « T'as peu, là, si le gars de 30 ans, il pense ça, ça veut dire que les plus jeunes aussi peuvent penser cette affaire-là. Est-ce qu'ils peuvent se permettre encore de rêver, nos jeunes? »
Bien, en fait, on voit apparaître un peu de l'éco-anxiété, comme on peut dire. C'est sûr qu'on a des jeunes qui sont un peu plus portés à y penser.
Puis qui est responsable de ça?
Bien, en fait, nos jeunes là, le voient aussi par leur consommation, parce que des fois, dans nos interventions, parce que je leur expliquais qu'en moyenne, aux États-Unis, c'est 5 vapoteuses qui sont jetées toutes les secondes.
Hein?
Donc, imaginez tout ce que ça fait comme déchets.
Ils sont 330 millions aux États-Unis.
Ouais. Donc là, si on prend la consommation de vapoteuses partout, donc quand on parle de ça aux jeunes, puis on dit « Hey, vous vous rendez compte, toutes les pods, comment ça en fait par jour? » Là, ils se rendent compte à quel point ils sont en train de briser leur environnement, puis là, on s'en rend compte que ça les dérange. Par contre, quand on les ramène dans le quotidien, ils n'ont pas nécessairement peur ou quoi que ce soit. Par contre, quand on parle d'argent, quand on parle justement là, avec toute la difficulté d'acheter une première maison, nos jeunes commencent à le voir, ça. Puis ils parlent beaucoup d'investissement, alors que moi, à leur âge, je ne parlais pas de penser à économiser de l'argent, à mettre de l'argent de côté. J'ai des jeunes très, très tôt qui vont penser à comment j'ai envie de me faire de l'argent pour être capable le plus possible de payer mes choses ou parce qu'ils s'en rendent compte que le coût de la vie augmente.
On devient-tu grand, plus jeune, puis dans le fond, c'est pas nécessaire. Tu sais, ça vaut la peine d'être vécu une vie d'enfant, je trouve.
Oui, c'est sûr qu'avec aussi la pandémie, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que nos jeunes sont devenus vite très autonomes. Moi, au secondaire, là, j'aurais pas été capable de passer des journées entières à m'auto-gérer devant mon ordinateur. Puis on a eu beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont trouvé ça difficile, puis ça a impacté beaucoup leur santé mentale de devoir s'auto-gérer, de devoir par eux-mêmes créer leur horaire de travail, de devoir gérer. Moi, j'ai tel devoir à remettre avant telle date, sans qu'il y ait tout le temps un professeur derrière eux, tu sais, à tous les jours qui leur rappelle « Hey, la semaine prochaine, on a un examen. » Tu sais, moi, mes jeunes, là, souvent, c'est ça qui me nomme, que ça le fait vraiment changer leur façon de voir les choses, parce que c'est sûr que c'est différent là, quand tu as passé 4 ans en pandémie.
Mais ils sont encore très positifs par rapport à l'avenir?
Je dirais que oui. Je pense pas que ça l'a nécessairement changé, parce que moi, j'ai quand même des jeunes là, qui veulent avoir des enfants, qui parlent de leur travail plus tard.
Tu leur dis-tu que c'est un paquet de problèmes, des enfants?
Non, parce qu'ils ont la chance. En plus, moi, parfois, je l'amène, ma fille, à mon travail, ma cocotte de 3 ans, puis mes jeunes, là, ils ont vraiment une belle approche. Puis au contraire, moi, quand j'ai mes jeunes, j'utilise ma fille, parce que souvent, là, ils vont faire des niaiseries, puis ils vont dire « Hey, t'as-tu vu, Julia, elle te regarde en ce moment, là. » Puis là, ils sont mal à l'aise, puis ils vont intervenir d'une autre façon avec ma fille. Ils vont devenir à développer d'autres compétences, parce que justement, ils se mettent dans un rôle un peu plus d'autorité, puis ça leur fait justement développer d'autres compétences.
Bien là, j'avais pas pensé tantôt, bien égoïstement, je t'ai parlé, moi j'ai une fille, puis là, je t'entends parler. Puis... Mais si tu permets d'aller un peu dans le personnel, parce que tu as ouvert la porte sur le fait que tu impliques parfois ta fille dans tes interventions et tout ça, on parlait de la charge mentale qui vient avec ton travail. Tu dois avoir des soirées difficiles des fois à la maison quand tu reviens avec ta cocotte, là.
j'ai la chance d'avoir quand même une horaire de travail. Moi, c'est moi qui fais un peu plus mon horaire. Donc, je peux... Ma direction me permet là, de faire parfois du télétravail pour être capable d'acclimater un petit peu justement ma situation. Mais en fait, moi, je travaille. J'ai pas le choix. Puis c'est ça que mes amis me trouvent ça drôle, que même à 30 ans, je travaille encore de soir parfois.
Ben oui.
Mais moi, si je veux voir les jeunes puis je vais être au quotidien avec eux,
c'est
j'ai
là.
Pas le choix.
C'est là que fait que
mes soirées d'animation sont vraiment importantes. Puis c'est là aussi que je ramène du bagage. Mais quand j'arrive chez nous, là, je viens à faire la coupure parce que j'ai un journal d'intervention, je remplis mes statistiques. Un coup que c'est fait, je suis capable de revenir dans mon travail. On travaille beaucoup là-dessus, là, pour être capable de faire une coupure entre le travail. Mais c'est sûr que ça m'arrive là, dans mon quotidien là, de aller retourner voir ce qui s'est passé parce que des fois, je suis en congé puis je veux voir ce qui s'est passé à la maison des jeunes. Je retourne dans ma base de données, voir ce que mes intervenantes ont fait la veille, s'il y a eu quelque chose de majeur, parce qu'on reste toujours un peu intervenante, même quand on est en congé.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr, même si on veut faire la coupure. Là.
Fait que tu fais la conciliation famille, travail quand même bien là, dans ta vie. Ben, bravo pour ça, parce que c'est un gros défi.
Merci.
Merci d'être là. Puis ce que tu fais pour nos enfants, c'est très cool. Janie Lamontagne, qui est coordonnatrice des maisons des jeunes, de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et intervenante pivot en exploitation sexuelle chez les jeunes, est avec nous. On parle de la semaine de la Maison des jeunes pour des parents qui aimeraient faire décoller leurs enfants de leur cellulaire. Bon, ça prend un pied de biche, là, tu glisses le pied de biche entre la main et le cellulaire. On les envoie directement.
On les envoie directement
sur le site de la Maison des jeunes.
Bien, en fait, ils peuvent tout le temps se présenter. Ils n'ont pas besoin d'appeler. Des fois, c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Franchir la porte. Puis moi, c'est tout le temps ça que je dis. Moi, quand j'accueille mes jeunes, là, au moment où ils ont franchi la porte, je dis tout le temps bravo, tu viens de franchir l'étape la plus difficile, c'est de franchir la porte. Parce qu'on a tout ce souvenir-là, la première fois qu'on a ouvert la porte, que tout le monde nous a un peu regardé à la Maison des jeunes. Mais nous, nos jeunes, là, on les implique dans l'accueil. Puis on essaie qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui va les chercher sur le bord de la porte. Fait comme, hey, allô, c'est la première fois que tu viens, bonjour, moi je m'appelle comme ça. Puis les jeunes entre eux vont essayer de faciliter les accueils des autres.
Ouais.
Fait que nous, on implique nos jeunes.
Peut-être y aller à deux, là.
Bien, c'est ça, y aller à deux. Moi, je conseille tout le temps d'y aller avec un ami. Même des fois, j'ai des parents qui viennent, puis je le conseille parce que le parent, il n'est pas obligé de rentrer. Il peut juste venir sur le bord de la porte, envoyer son jeune, jaser avec l'animateur, faire semblant qu'il voulait poser une question à l'intervenant. Il rentre dans mon bureau. Des fois, on se parle même pas, le parent, puis moi, on fait juste faire salut, ça va bien, oui, parfait.
On sait ce qui se passe, là, toi, puis moi.
Puis le jeune, bien, ça lui a permis d'avoir un lift pour se rendre, de pouvoir un peu faire le premier contact. Puis des fois, c'est juste un 15 minutes, un 5 minutes. Il n'est pas obligé de passer la soirée complète avec nous. Là. Des fois, le jeune, il va rester parce qu'il trouve ça bien cool, mais des fois, juste d'avoir fait un petit 5 minutes, de revenir chez lui, la prochaine fois, il passe un petit peu plus de temps, puis c'est volontaire.
Mais le pire, quand tu crées une situation, là, c'est-tu comment tu peux te parer à ça? Il faut toujours t'amener quelqu'un avec toi. Puis tu l'as choisi, cette personne-là, il faut qu'elle court moins vite. Fait que si t'as à te sauver, ben c'est cette personne-là qui va être pognée dans la Maison des jeunes.
Un grand sage,
ça. Donc, je vais dire ça à mes ados qui font des mauvais coups, qu'au moins elles feront... Mais non, vraiment pas.
Janie, ça a été un plaisir.
Ben merci. Hein, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Merci tellement.
Bye-bye. 11h06, on fait une courte pause. Vous avez des choses à me dire, c'est le 88-97h. Salut, 1. Reg against le matin. 13 minutes. T'es-tu déjà perdu à quelque part pendant plusieurs heures?
Ça m'est arrivé deux fois.
Deux fois?
Enfin. Yannick, c'est douloureux comme souvenir.
Ça m'est arrivé. Perdu dans mon garde-robe.
Ça m'est arrivé deux fois d'être oublié à des endroits par le terrain de jeu. Une fois au village vacances Valcartier.
OK.
Et une fois sur le top d'une montagne à Inverness.
OK. Sur le top d'une montagne, c'est un peu plus stressant. Je pense que le bureau d'accueil est un peu plus loin. Là.
Tu dis que
village
c'est
village vacances
stressant.
Valcartier, il y a quand même du staff, là,
ben
si
oui.
T'es perdu.
Mais tu sais, j'étais toute seule dans la piscine à vagues à 7 ans, puis tout le monde est parti. J'ai passé la journée à la table de rassemblement à côté des boîtes à lunch. Fait que ça, c'est deux fois où est-ce que je me suis perdue.
Ils sont-ils venus te rechercher ou bien ils étaient tannés de toi et ils t'ont laissé là?
Ben regarde, je suis là aujourd'hui, donc c'est une histoire qui s'est bien terminée. Mais plus récemment, mettons, ben oui, ça m'est déjà arrivé là, dans des villes que je visite ou... mais pas nécessairement à Québec. Pourquoi?
OK. Ben je te posais cette question-là. Moi, je me suis jamais vraiment perdu. Je me souviens peut-être d'une fois ou deux, là, Sucyre, où j'entendais mon nom, là.
Dans le haut-parleur?
Le petit Yannick a demandé au bureau d'accueil, là. Le petit Yannick a demandé au bureau d'accueil le parce que tes parents te cherchent. Mais je me souviens pas de m'être perdu très, très longtemps.
T'as un bon sens de l'orientation, toi?
Oui, puis mon ego, même jeune, a fait en sorte que je vais essayer de m'en sortir moi-même. Puis demander de l'aide à quelqu'un, c'est comme dernier recours. Puis ça me longtemps nuit, ça, dans la vie.
T'aimes mais... pas dépendre des autres,
exact.
Hein, Marceau?
Mais j'étais comme ça quand j'étais jeune. Peut-être que c'est dans mon ADN. J'ai... Ou peut-être j'ai manqué d'air à naissance. Certains diront oui, effectivement.
Les deux!
Mais connais-tu Mikhail Pichugin?
Non.
Lui, il vient d'être retrouvé vivant après un séjour en mer de plusieurs jours. Combien de jours, selon toi? Là, il est vivant, je te rappelle.
OK. Fait qu'il était sur un bateau.
Ouais.
Puis il a été perdu en mer.
Une semaine sans eau, là, ça se peut que tu crèves.
OK.
Deux semaines sans manger, ça se peut que tu crèves.
Bon, ben, je vais y aller pour ça, 14 jours, mettons.
Toi, tu dis 14 jours. Je rappelle qu'il était sur un matelas gonflable.
Ah, ben là, t'as pas dit un bateau, c'est pas pareil. Là.
Ouais, ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il faisait sur un matelas gonflable?
Il était avec. C'est comme un gros bateau gonflable, puis il était avec son frère, puis le fils de son frère, de ce que je comprends. Il a été perdu en mer pendant 66 jours.
Mais voyons donc, c'était-tu quelqu'un qui fuyait son pays, mettons? Ou...
Ben, ça pourrait s'apparenter à ça. D'ailleurs, il va avoir certaines accusations dans son cas. Mais il y a une enquête, d'ailleurs, qui a été ouverte pour violation des règles de transport maritime qui a entraîné, par imprudence, la mort de deux personnes. Donc, les deux personnes qui l'accompagnaient. Mais 66 jours.
Puis lui, il est le seul survivant.
En mer.
Il a vécu aussi le fait de perdre les deux personnes qui étaient avec lui. Là.
Oui. Sa femme disait que Pichugin... Ben ça, son nom.
Pichugin.
Pichugin.
Comme le Machu Pichugin.
Pesait 200 kilos. Donc,
Non,
excuse-moi. Kilo. Il pesait 100 kilos. Fait que 100 kilos, c'est à peu près 220 livres. Oui. Ça, c'est quand il est parti. Ouais. Quand ils l'ont retrouvé après 66 jours, il pesait combien?
Je sais pas. Il avait perdu... Il devait peser genre 150. 120 livres.
T'es proche. Il pesait, au départ, il pesait 100 kilos, donc 220 ouais. livres. Ils l'ont retrouvé à 50 kilos.
Fait que 110 livres.
Exact, 110, 115.
Fait qu'il est parti gros comme mon chum, il est revenu gros comme moi.
Et les experts disent que c'est probablement en raison de son surpoids qu'il a réussi à survivre en mer comparativement aux deux autres qui sont morts de faim et de soif.
Il aurait puisé dans les graisses puis dans les réserves, mettons.
Exact.
Oh non!
Comment il a fait pour boire de l'eau? Il a récupéré
son
l'eau
urine?
De pluie.
OK.
Ah, c'est ça, je ne me rendrais pas jusque-là. Je pense que je préférerais me tirer à l'eau.
Mais non, mais là, vie ou mort, là. Mais...
Non, c'est non, c'est non.
Fait qu'il a bu l'eau de pluie.
Ouais.
OK, ouais, ça donne une chance, c'est vrai.
Il y a eu deux films qui se sont faits. Je pense que c'était une équipe de football qui avait disparu, un crash d'avion. Puis un premier film dans les années 80, puis un autre dans les dernières décennies, là. Et le premier film des années 80, moi, je l'ai vu. Puis c'était des jeunes qui avaient fait un crash. Puis à un moment donné, il n'y avait rien. Il était dans le Grand Nord. Il n'y avait rien à manger. Il n'était pas capable de chasser. Donc, il y avait des corps qui étaient là. Puis ils ont pris la décision de commencer à piger dans les corps du crash d'avion qui était congelé à l'époque. Là. Et ça m'avait marqué, ça.
Ça me traumatise.
Mais en même temps, c'était l'instinct de survie
puis
qui devait embarquer.
C'était une histoire vraie ou c'était une fiction, ça?
C'est une histoire vraie.
Oh, mon Dieu.
Ouais, c'est une histoire vraie. Peut-être que les auditeurs se rappellent du titre du film 418-971-1021.
Ouais.
Mais tu te poses des questions. Tu es en mode survie, comme tu as dit tout à l'heure. Tu n'as rien à manger. La seule chose qu'il y a à manger, c'est le corps de tes amis du club de foot. Là.
En plus, c'est des gens que tu connais.
Il y en a qui l'ont fait. Là.
Qui te choisit? Celui que tu aimais le plus ou celui que tu aimais le moins?
Celui
qui a l'air d'avoir la meilleure viande? Je peux pas croire que je t'ai demandé ça. C'est dégueulasse. Pourquoi je suis allée là?
Je sais pas. La plus grosse paire de fesses, peut-être.
Ah, peut-être. La bonne viande, là. Arr.
Tu y vas avec le plus en chair, j'imagine.
J'imagine.
Les Parce survivants.
Ça, sur la viande, ce qui est bon, c'est gras, là.
C'est ça, Adam qui dit c'est les survivants.
Tu check quel collègue a l'air le plus persillé.
Ouais. Mais admettons, là, dans le staff que t'entends en ondes, Pascal. Hello, tu choisirais
nom.
Qui?
Dans le staff que j'entends en ondes à Boulevard, qui ouais. Je croquerais.
Ça serait Gravel, là.
Ben, ça a l'air d'être lui le plus. le plus tendre, là. Ouais, je pense que je mangerais Gravel en premier.
Hey, j'ai dit...
Hey, hors contexte, c'est weird.
Oui, c'est correct.
Toi, tu prends qui?
Personne. Aucune de ces réponses, je me laisse crever. C'est un film de 2 heures, ça a été sorti en 1993.
OK, oh,
puis,
wow.
Ça s'appelle Les Survivants. C'est un film américain.
Une équipe de rugby?
Ouais, c'est ça, je pensais que c'était l'équipe
de soccer
de
en Amérique du Sud, OK. Ouais, fait, en plus du monde pas habitué de vivre dans le Nord, là, mettons.
C'est ça.
Tu parles d'une histoire.
Puis c'est une histoire vraie, puis ça se serait passé en 1972. C'est le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya qui survole les Andes. C'est 47 personnes qui étaient à bord.
Aïe, aïe!
Fait que tu choisirais Denis Gravel?
Ben.
On dirait que je suis pas déçu.
Je prendrais pain chaud en dernier parce que c'est comme. C'est ma meilleure amie. Je serais pas capable de la croquer, là. Ça me ferait trop de peine.
Ouais.
Okay. Ouais. Gravel. Tu sais, je suis moins proche de Gravel. Oh, tu sais, Véro est trop petite, tu sais, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Pascal non plus, pas grand-chose là-dessus. Toi, t'es trop musclé, pas assez de gras.
Non, il y a du stock pour la promo de Gravel, je pense.
Je pense que oui.
Ouais.
C'est peut-être que tu te mouilles pas, toi.
Il y aurait fait un peu... Ben, j'évite ces situations.
Je le sais, tu mets les autres dedans à la place.
C'est la semaine... Je pense que c'est la